Avis critique.
Raphaël Bourgois. Les idées au banc d'essai, avis critique, explorent toutes les disciplines et les indisciplines. Ce soir, comme chaque semaine, deux essais sous les feux de la critique, deux livres qui invitent à penser contre soi-même. Dans « L'émancipation promise », publié aux éditions du Cerf, le philosophe Pierre-André Taguieff propose de remettre en cause cette notion consensuelle jusqu'à devenir ce qu'il appelle un émancipationnisme, défini comme l'extension sans limite des droits subjectifs. Car derrière l'émancipation se cacherait en réalité le projet de rejeter identité, histoire et enracinement. De son côté, l'historien des idées Marc Lilla se propose lui d'explorer l'esprit de réaction, c'est le titre de son livre paru chez Desclés de Brouwer. Là aussi, il s'agit de faire mine de penser contre soi-même, de partir en quête de cet autre radical, inconnu, parce que devenu infréquentable, même pour la recherche intellectuelle, le réactionnaire et sa pensée nostalgique. Et en studio pour débattre, et c'est sûr qu'il y aura du débat ce soir, de ces deux livres, Eugénie Bastier du Figaro, bonsoir Eugénie.
Bonsoir.
Et Joseph Confavreux de Mediapart, bonsoir Joseph.
Bonsoir.
Alors je vous propose de commencer par l'essai de Pierre-André Taguieff, L'émancipation promise, publié donc aux éditions du Cerf. Politologue et historien des idées, directeur de recherche au CNRS, Taguieff est l'auteur d'une quarantaine d'ouvrages portant sur le racisme et l'antiracisme, l'antisémitisme et les idéologies d'extrême droite. Il propose ici de s'attaquer à cette notion d'émancipation qui a perdu son sens, selon lui, depuis qu'elle est apparue dans la philosophie des Lumières, devenue trop consensuelle. Elle décrit un projet partagé aussi bien par la gauche radicale, qui trouverait un ersatz de communisme, que par les progressistes ultra-libéraux, en ce qu'elle concourt au triomphe de l'individu. C'est donc d'abord contre le flou, le sens embrouillé de ce terme devenu projet politique, qu'écrit Pierre-André Taguieff, mais aussi contre une idole. Il y a chez lui une jouissance non dissimulé à s'attaquer à ce qu'il considère comme un totem et un tabou, au point que la rhétorique émancipationniste, comme il dit, aurait fini par menacer la vraie émancipation. C'est en tout cas ce qu'il entend montrer dans ce livre. Mais Pierre-André Taguieff ne s'attaque pas seulement au confucianisme moderne, il dénonce un projet politique derrière la mythologisation de l'idéal d'émancipation, le désir d'effacer le passé en faisant l'éloge d'individus sans attache et donc sans identité. Dégagé, selon le philosophe, de sa gangue de confusion par son travail mené ici sur l'histoire d'une notion devenue folle, l'émancipation apparaît pour ce qu'elle est, un programme de refonte anthropologique visant à abattre systématiquement toutes les limites de ce qui fait ou ne fait pas un homme. Élevé au statut de religion, c'est aussi un outil puissant pour faire taire ceux qui entendent résister, défendre le droit de continuer contre les ruptures. Eugénie Bastier, c'est un ouvrage qui défend une idée, il est donc temps de s'émanciper de l'émancipation.
Oui, alors moi je suis totalement d'accord avec cette idée, donc je suis d'accord avec Taguieff sur c'est ce projet de critiquer la dynamique effrénée du progressisme qui promet une émancipation sans fin, sans limite et sans contenu déterminé, et donc une émancipation qui finalement ne repose pas sur un projet précis et conduit à être un projet sans fin. Donc sur ça, je suis absolument d'accord. Là où j'ai un problème, c'est peut-être plus sur la forme de l'essai qui me semble assez noueux et relâché et assez désordonné en fait. C'est un mélange de propos et de développements précis sur l'histoire de l'émancipation qui est nourri de textes et de références extrêmement nombreuses. Il va puiser dans les penseurs de la gauche. Il va puiser dans tous les ceux qui ont conceptualisé cette idée d'émancipation, donc c'est intéressant, on découvre des textes qu'on connaissait pas forcément, mais j'ai du mal à suivre son raisonnement parce qu'il y a des allers-retours permanents justement entre les périodes, entre les penseurs, et donc c'est l'aspect désordonné du livre qui me gêne profondément. Il remarque d'ailleurs que le mot émancipation obscurcit plutôt qu'il n'éclaire, mais on ressort de ce livre, je trouve pas très éclairé, même si je trouve que le propos est très intéressant, et ce qui est intéressant, c'est de cibler ce mot, le mot émancipation, parce que c'est vrai que la critique du progressisme prend différents aspects aujourd'hui. On peut critiquer par exemple l'idée de progrès, l'idée de droits individuels ou l'idée de liberté infinie, mais le mot émancipation en soi, là il a cerné quelque chose qui en effet est au cœur de cette dynamique, et il cerne bien la polysémie de ce mot qui est à la fois en effet récupéré par une gauche radicale qui veut une émancipation totale de l'humanité, de tout déterminisme et de toute aliénation, et une émancipation individuelle qui, elle, est prônée par les penseurs techno-libéraux. Et il cite au début du livre des gens comme Harari ou Steven Pinker, qui sont des aujourd'hui des essayistes très à la mode, qui se mettent dans la lignée des... Ils disent que ils prônent l'émancipation par la technique et la démocratie libérale. Et donc, c'est intéressant de voir que ce terme, en effet, est repris. Et d'ailleurs, ils citent aussi une manière, quand l'émancipation est reprise par les souverainistes aussi, qui veulent l'émancipation de la nation, etc. Donc, c'est un mot extrêmement polysémique. Donc, le projet est intéressant, la forme est moins réussie.
Joseph Confavreux, le livre commence l'introduction par cette citation de Jean-Paul Sartre, un penser contre soi-même, puisque ce que dit Pierre-André Taguieff, c'est qu'on ne pense pas à l'émancipation parce qu'il y a une forme de consensus qui serait contre l'émancipation et pour l'aliénation.
Non, mais il y a un projet qui aurait pu être intéressant au sens où effectivement il y a un usage un peu routinier du terme émancipation, au sens où ça reste un terme un peu flou et on ne sait pas exactement toujours de quoi on veut s'émanciper, de qui on veut s'émanciper. Mais très vite, il y a une cohérence de fond qui est de faire un éloge vibrant du statu quo, de l'aliénation, de la domination, du capitalisme et des inégalités. Donc après, ça décilera peut-être les naïfs comme moi qui pensaient que l'émancipation pouvait avoir un quelconque intérêt, mais c'est quand même un livre qui aligne... les points Godwin, les syllogismes, les embardés pamphlétaires davantage que les analyses sociologiques et philosophiques, dont moi j'ai un regret qui va tout de suite me ranger dans les gauchistes culturels que Pierre-André Taguieff aborde, c'est que en fait il aurait dû le publier un peu plus tard parce qu'il manque par exemple une bonne critique de Greta Thunberg, un truc un peu subtil en la dénonçant comme une maoïste autiste. Oui voilà, mais en gros c'est-à-dire que ça devient un florilège de tous les lieux communs réactionnaires avec cet unique argument éternel et ultime argument de la boîte de Pandore, l'émancipation mène à l'émancipationnisme, la révolution à la terreur, l'ISF au colcause, la PMA à la GPA, le vélo à l'islamo-cyclisme. Enfin voilà, on est dans cette idée que tout ça c'est la boîte de Pandore, c'est des arguments qu'on a entendus 50 fois, qui sont répétitifs, mal formulés, même si après il y a des trucs érudits, on parlera peut-être de ce qu'il raconte du jeune Marx, qui est à peu près le seul truc intéressant, même si encore là, après, il s'enferme dans une ligne qui va de Marx à l'hitlérisme jusqu'au transhumanisme. Enfin bon, voilà, pourquoi pas, mais moi je préfère, c'est-à-dire, quand même il met, attention, les lecteurs en alerte contre ces deux dangereux bolcheviques qui d'outre-tombe, Albert Jacquard et Stéphane Hessel, instillent le poison dans nos sociétés en les sapant avec leur idée d'indignation et de décroissance. Moi je préfère quand même les gens qui vieillissent comme Albert Jacquard et Stéphane Hessel que comme Pierre-André Taguieff.
Génie Bastien.
Je ne serais pas aussi sévère, mais ce que raconte Pierre de Traguieff, c'est l'histoire, on parle souvent de l'expression de Chesterton sur les vertus chrétiennes devenues folles, et bien lui, il parle d'une idée des Lumières devenues folles, qui est l'idée d'émancipation, puisque évidemment, il repart d'ailleurs de l'étymologie du mot émancipation, qui vient du latin émancipare, libéré de l'autorité paternelle, et c'est bien le
donc
projet...
Donc il montre l'origine juridique, en fait.
Oui, voilà, l'origine juridique très précise, pour le coup, et qui est repris d'ailleurs par Kant dans son idée des Lumières, où il dit l'homme doit sortir de l'état de minorité dans laquelle il s'est lui-même mis. Et donc là, c'est une idée très précise, c'est l'idée d'une émancipation qui est une émancipation de l'esprit et une émancipation politique et religieuse dans l'esprit des Lumières, c'est-à-dire se libérer de l'autorité de la religion et de l'autorité, évidemment, d'une politique sans autonomie. Et peu à peu, il montre que ce mot a glissé et que finalement, il est devenu ensuite, d'abord par la dialectique marxiste, il a été transformé en émancipation économique, mais une émancipation économique et une émancipation philosophique, puisque il montre que Marx lie l'émancipation de la classe du prolétariat avec l'émancipation de l'humanité tout entière, et c'est là qu'il y a un glissement. C'est-à-dire que pourquoi lier forcément l'émancipation d'une classe sociale, une émancipation économique, à l'émancipation du genre humain dans son entièreté et l'émancipation humaine en général. Et là, il montre qu'il y a un glissement, en effet, qui ouvre la voie à toutes les dérives, notamment à l'idée de forger un homme nouveau qui soit complètement libéré de toutes ses attaches, de tous ses liens. Et donc, on passe de cette émancipation j'allais dire politique juridique et religieuse à une émancipation philosophique qui porte en elle toutes les dérives, parce que il faut trancher une émancipation qui devient désaliénation, et donc trancher tous les liens qui retiennent l'individu à toute forme de communauté.
L'un des points récurrents du livre Joseph Confavreux, donc de Pierre-André Taguieff, L'émancipation promise aux éditions du Cerf, c'est de dire d'abord l'émancipation individuelle entre systématiquement en conflit avec l'émancipation collective. Il y a une dialectique qui n'est jamais véritablement résolue, mais c'est aussi de dire qu'aujourd'hui on a un projet d'émancipation qui est infini. C'est-à-dire que l'émancipation n'est jamais tout à fait acquise, puisqu'il y a toujours des aliénations dont il faut s'affranchir.
Oui, mais c'est vrai que l'émancipation est un processus, mais encore une fois, moi, ce que je comprends pas, enfin, ce que je comprends malheureusement dans Pierre-André Taguieff, c'est de nous dire toujours que l'égalité, ça va mener à l'indétermination, à l'indifférenciation. C'est quand même pas sorcier de dire que vouloir l'égalité des droits, c'est pas vouloir que tout le monde soit identique. Et pour lui, toute revendication d'émancipation, au fond, mène à un grand confusionnisme, à l'idée que tout serait pareil, y aurait plus de distinction. Et en fait, lui, son problème, c'est qu'il y aurait plus d'hiérarchie. Et en plus, moi, on peut discuter, hein, pendant des heures, hein, des questions qu'il pose, de qu'est-ce qu'il faut garder comme lien, de quoi il faut savoir s'émanciper. Mais il faut être cohérent. Il n'arrête pas de parler de limites, de la nécessité de pas vouloir aller toujours plus loin, d'être dans une logique prométhéenne. Et il défend le capitalisme, il nous explique que l'écologie politique, c'est le nouvel opium du peuple. Il y a un moment, c'est complètement... Tout est incohérent. Il nous explique, parce que le problème, donc je vais le résumer, comme il dit, c'est que tout le monde, ceux qui veulent changer le monde, rêvent d'une abolition des limites, contraire à l'esprit prométhéen, d'une suppression des liens qui sont trop contraignants, et d'un rejet des héritages qui sont trop lourds. C'est parce qu'il connaît rien aux mouvements sociaux, mais sur les ZAD, qu'est-ce que les gens demandent? De recréer des liens, de retrouver une agriculture paysanne, et de ne pas céder aux technologies du progrès. Quand il décrit les gilets jaunes, il parle que, comme si c'était juste une revendication de pouvoir d'achat pour de l'essence, alors que bon, bah il y avait une demande égalitaire. Voilà.
Oui, mais je suis d'accord.
Il est dans une haine de
l'égalité. Bastier. Non, mais je suis d'accord avec vous, par exemple, sur l'écologie, de dire que l'écologie. Justement, et dans cette dialectique émancipationniste, c'est vrai qu'il y a une confusion dans certains, par exemple, que certains militants écologistes n'ont à la bouche que le mot d'émancipation de révolution, me semble contradictoire avec l'idée de l'écologie, qui est une idéologie, qui est avant tout un moyen de conserver aussi. Et aujourd'hui, ce qui est vrai, c'est que c'est le capitalisme qui récupère justement les mots de l'émancipation, les mots de la révolution. Et d'ailleurs, le titre du livre d'Emmanuel Macron s'appelait bien Révolution. Et c'est lui qui parle d'émancipation. Et c'est d'ailleurs le livre de ses conseillers, Le progrès ne tombe pas du ciel, où il parle de la maximisation des possibles. Et donc, c'est ça l'émancipation individuelle, c'est de donner un maximum de choix aux individus. Et face à ça, c'est vrai que ce qu'avait très bien montré des penseurs comme Christopher Lasch ou Michel en France, c'est que effectivement la rhétorique bougiste de l'émancipation peut servir aussi le capital en dernière instance.
Juste un mot, Eugénie Bastier, parce que je rappelle à nos auditeurs que vous avez cofondé, que vous animez en tout cas une revue qui s'appelle Limite, oui. Une revue de d'écologie intégrale, en tout cas c'est comme ça qu'elle se présente. Cette notion des limites telle qu'elle est manipulée par Pierre-André Taguieff, qui en fait finalement une sorte de remède à cette émancipation sans fin qu'il regrette très ouvertement. Comment est-ce que vous avez apprécié cette utilisation
encore une fois, je trouve que le livre dans la forme me gêne, mais je suis assez d'accord avec les références qu'il met en avant, comme celle de Kolakowski, d'Ancionas ou de Albert Camus. Cette idée de limite, c'est la fameuse phrase, je sais pas s'il la cite d'ailleurs, mais d'Albert Camus, toutes les générations ont voulu transformer le monde, la nôtre sait qu'elle ne le peut pas, sa tâche est aujourd'hui plus grande, elle est d'empêcher que le monde ne se défasse. Et ça, c'est vraiment le retournement, en disant voilà, nous avons assez transformé le monde, maintenant il s'agit de le conserver, et avec cette idée quand même, je pense, anthropologique, d'une idée de finitude humaine. Je pense que dans l'idée d'émancipation, telle qu'il la critique, c'est l'idée que finalement l'homme est une page vierge, une page blanche qu'on peut modeler à sa guise, et qu'il n'y a pas de limites intrinsèques à sa condition, limites qui sont par exemple le fait de naître quelque part dans un endroit déterminé, d'appartenir à une communauté, de mourir, de vieillir, d'avoir un sexe et etc. Ce sont des limites qui sont pour moi constitutives de la condition humaine, et que l'idée d'émancipation émancipationniste prétend nier. Et prétendre comme ça, dire que la nature humaine n'existe pas. Et c'est ça, à mon avis, qui est au cœur de sa démonstration, même si elle est parfois un peu floue.
Joseph Confavre, on a là, avec ce livre de Pierre-André Taguieff, véritablement une sorte de manifeste conservateur. En tout cas, c'est très clair, hein, c'est pas un jugement normatif et moral de le dire, puisqu'il l'affiche en tout cas à plusieurs reprises dans ce livre, sur cette notion de limite qu'il manipule. Et c'est vrai qu'on voit émerger dans le débat public, que ce soit sur la question en effet du genre, sur la question de la PMA ou sur d'autres sujets.
Non, mais qu'il y ait des limites, notamment écologiques, à notre mode de vie, on peut encore une fois en discuter. Simplement, moi, ce que je n'accepte pas, c'est d'en faire, au fond, une manière de préserver le statu quo, conservateur, voire réactionnaire. Et là, c'est typiquement cet exemple, puisqu'en fait, il ne se sert de cette notion que pour taper sur tout ce qui est à gauche de lui, ce qui commence à faire beaucoup, et même sur des bases, au fond, de la politique. Hein, alors que moi, je pensais que le problème de nos sociétés contemporaines, c'était que la devise républicaine égalité, liberté, fraternité n'était pas très bien appliquée. Pierre-André Taguieff, il nous explique que le problème, c'est que ces notions érigées en absolu, la liberté, l'égalité, la fraternité, se transforment en idoles sanguinaires au nom desquelles des multitudes sont sacrifiées. Enfin voilà, on est dans une sorte de délire contre-révolutionnaire, contre l'émancipation, qui, du coup, même si on pourrait discuter des limites, même si évidemment je suis pas du tout d'accord avec ce que dit Eugénie Bastier sur la vision de la condition humaine qu'elle défini, là on peut même pas discuter parce que c'est vraiment, je vous dis, il y a tout quoi, c'est d'un coup il y a Hitler qui surgit, hop le transhumanisme, hop on va taper sur tout ce que la gauche compte de penseurs ou de figures, enfin voilà. Bon.
Vous pouvez pas nier quand même qu'il y a quand même ce que met en avant ce livre et qui est juste à mon avis, c'est quand même la tentation totalitaire d'une certaine gauche émancipationniste qui veut forcer la main aux émancipés, c'est-à-dire faire leur bien malgré eux et forcer, enfin, c'est ce que dit, ça remonte à Rousseau, hein, on les forcera à être libres. Et l'idée que, au nom du bien, au nom d'une vision de l'homme libre et émancipé, eh bien, on va forcer la main, les émancipateurs vont forcer la main aux émancipés. Et ça, c'est quand même une tentation qui existe, c'est-à-dire de forger un homme nouveau par la force, en fait, et de ne pas tenir compte de l'homme tel qu'il est, au nom de l'homme tel qu'il devrait être, rentrer dans une dynamique extrêmement dangereuse et totalitaire. Je ne dis pas que c'est le cas de évidemment toute la gauche.
Mais pas totalitaire. Enfin, quelle gauche est totalitaire? On ne peut pas toujours dire voilà tout.
Une gauche a été totalitaire au XXe siècle.
Voilà, ils veulent fonder des hommes nouveaux. Enfin, juste, il y a une revendication d'égalité des droits. C'est point.
Juste pour approfondir ce que vient de dire Eugénie Bastier, il y a l'idée chez Pierre-André Taguieff que finalement, cette idée d'émancipation, ce serait une idée des élites intellectuelles, Joseph Confavreux. Il s'en prend à un certain nombre d'autres. Alors, il n'est pas cité, sauf si j'ai raté son nom, mais je pense que Gérard Mariel, dont on parlait ici la semaine dernière, fait vraiment partie des historiens qui sont dans le viseur de Pierre-André Taguieff, mais il préfère s'attaquer à Alain Badiou ou à Slavoj Žižek sur la notion de néo-communisme à la fin du livre.
Oui, d'après Pierre-André Taguieff, je le cite, on vit sous l'ère du terrorisme intellectuel, du gauchisme culturel. C'est vrai que par exemple la convention de la droite de dimanche dernier où on a eu droit à 20 minutes de Zemmour en prime time montre que tous les grands médias sont en train d'imposer ce terrorisme. D'ailleurs France Culture est un camp de djihadistes afghans quasiment, donc moi j'ai très très peur.
Non,
et,
là,
et je veux à peine retourner à Mediapart parce que alors là c'est le QG stalinien qui est en train de néo-stalinien.
Très bien, mais je pense qu'on peut vous condamner Éric Zemmour et vous dites que c'est une honte qu'il ait la parole. On peut aussi s'indigner.
Une honte, il a la parole. Oui, c'est une infamie qu'il ait 20 minutes en direct.
Oui,
sur
d'accord.
La télé.
Moi, je trouve que c'est une infamie qu'Alain Badiou ait une interview dans Le Monde où il fait l'éloge de la terreur. Bon, voilà. Et où il fait.
Je vais pas défendre Alain Badiou, mais.
Je trouve
que
les.
Non, mais
voilà, on peut faire des réductions.
Dans les deux sens.
Dans les deux sens. Mais bon, ce qui est intéressant aussi, c'est le glissement dans cette rhétorique de l'émancipation d'une dénonciation de l'exploitation économique à une dénonciation de la domination. Domination qui peut être symbolique et qui du coup est beaucoup plus vague et beaucoup plus floue et qui aboutit à ce que, et d'ailleurs Pierre-André Taguieff est un spécialiste du conspirationnisme, à une vision quasiment paranoïaque et complotiste de la société avec cette idée qu'il y a un pouvoir, c'est-à-dire ce n'est plus le pouvoir des élites économiques qui exploitent le prolétariat, mais un pouvoir un peu diffus du capitalisme avec un grand C, du capital avec un grand C qui aliénerait les gens et cette espèce de voilà, de rhétorique quasiment paranoïaque qui voit le pouvoir partout, une vision un peu floue dont il faudrait s'émanciper. Et ça, je pense que c'est un véritable problème.
Ouais, alors justement, peut-être puisque... de faire de la sociologie, parce que pour lui, Bourdieu se range dans ses complotistes paranoïdes. Voilà, il y a un travail sociologique, mais forcément, quand on veut dire des choses aussi ineptes, eh ben, il faut arrêter de faire totalement de la sociologie.
Alors juste un mot pour terminer, si vous le voulez bien, il nous reste quelques instants quand même à consacrer à ce livre, puisque vous avez parlé de complotisme Eugénie Bastier et que Joseph Coufavreux l'a dit au début de l'émission, il y a peut-être un chapitre un petit peu à part dans ce livre sur Max et la question juive, puisque sur la notion d'émancipation, Pierre-André Taguieff rappelle à quel point elle est ancrée aussi historiquement en France dans la question de l'émancipation des juifs, et il fait toute une histoire aussi de cette émancipation comme origine d'une certaine forme de judéophobie, en tout cas d'une judéophobie nouvelle, Joseph Coufavreux, et il va chercher chez le jeune Marx un texte qui, faut bien le dire, dans son propos, va plutôt dans son sens.
Oui, non, c'est vrai que là, le texte du jeune Marx, enfin qui est connu, hein, mais qu'il met en avant, montre que Marx, bien que descendant d'une famille de rabbins, était judéophobe, épousait l'ère judéophobe de son temps, et ça, bon, Pierre-André Taïef, voilà, l'analyse bien. Moi, après, ce qui est paradoxal, c'est qu'au fond, Marx, enfin le jeune Marx en tout cas, a commis des écrits qui font partie de ce que Auguste Bebel appelait, disait que l'antisémitisme c'était le socialisme des imbéciles, c'est-à-dire les gens qui confondent capitalisme et juif et qui donc dans leur haine du capital peuvent haïr les juifs. Après, voilà, donc ça c'est important, je pense, de rappeler que l'antisémitisme peut être le socialisme des imbéciles. Après, voilà, il part de quelque chose d'assez érudit, hein, Pierre Nantes, on ne va pas lui empêcher lui dénier un certain savoir. Sauf que après, il nous explique qu'au fond c'est à peu près comme Heidegger, c'est-à-dire que et non, la judéophobie de l'ère du temps du jeune Marx, c'est pas l'engagement dans le parti nazi de Heidegger. Donc voilà, c'est-à-dire que même quand il sait des choses, il finit avec des points Godwin.
Oui, et puis Eugénie Bastier. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que cette judéophobie de Marx, qui est la judéophobie du juif émancipé envers le juif d'en bas, qui continue à assumer son particularisme juif et culturel, c'est-à-dire vraiment le juif qui est sorti de sa condition particulière, mais qui méprise en fait les gens de sa propre communauté, qui eux sont restés dans ce particularisme. Et c'est vrai qu'il y a des phrases absolument antisémites chez Marx. Il montre bien la différence entre l'antisémitisme d'extrême droite qui maudit dans le juif justement l'universaliste, le cosmopolite, celui qui est déraciné, et l'antisémitisme de gauche et d'extrême gauche qui maudit dans le juif le particulier. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un retournement, c'est-à-dire que le nouvel antisémitisme repose aussi sur cette... qui existe à l'extrême gauche. Aujourd'hui, on maudit cette judéophobie marxiste est de retour. C'est-à-dire qu'on maudit dans le juif le particulier, notamment son amour d'Israël, de la nation, de l'enracinement, et non plus le juif cosmopolite.
Enfin, juste deux choses. Il ne faut pas non plus exagérer. Il y a un antisémitisme à l'extrême gauche qui est quand même très résiduel par rapport à l'antisémitisme d'extrême droite. D'autre part. Pierre-André Taguieff se sert de cet argument pour dire toute critique du capitalisme est au fond suspecte d'antisémitisme. Donc surtout, détestez les altermondialismes et ne critiquez pas le capital qui, comme on le sait, est très mesuré et va poser des limites écologiques à la planète.
On attend le livre de sociologie qui nous dit si aujourd'hui l'antisémitisme est résiduel à l'extrême droite ou à l'extrême gauche. Pour l'instant, on n'en dispose pas. Vous ferez votre idée. Pierre-André Taguieff, l'émancipation promise, c'est donc aux éditions du Cerf.
France Culture, avis critique,
Raphaël Bourgois.
Long hair girl with Selena, yeah. She ain't got a job, but she rockin' bomb, yeah.
Hey, y que no pare, yeah, yeah, que con mi gente ando.
Got a job, but she rockin' ball, me, yeah. I don't want a little bit, I want the whole thing. One of one, Mike and Mary jeans, oh yeah. Wise niggas hatin' on me, oh yeah. Don't you make it hot, don't make a scene, oh yeah. In the cut with the pump, hit his bean, oh yeah.
Nigga like a lick, but I'm not one. Nigga in the cut with a shotgun. One up top, hit his top, ah. One up top, hit his top, just let me know.
pare. Yo le. Hey, 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 ma, ¿cómo estás? Yo sigo en este lugar y no sé dónde quedas, así que no me venga a rescatar. Yo no sé cómo llegué, solo desperté en una habitación que no era de mi hotel. Entonces me enojé, luego me calmé porque había algo para beber.
Voilà, Paolo Londra parti, c'est tout à fait d'actualité, ou en tout cas dans le thème de cette émission aujourd'hui. Bon, bref, deuxième temps de l'émission, je vous propose de nous intéresser maintenant à l'essai de Marc Lila, L'esprit de réaction, aux éditions des Clés de Brouwer. On avait évoqué l'année dernière le précédent livre de l'essayiste américain La gauche identitaire, l'Amérique en miettes, publié chez Stock. Le professeur de sciences humaines à Columbia University à New York qui défendait l'idée que la gauche s'était perdue en se focalisant trop sur les questions de race et de genre, empêchant de la sorte tout projet fédérateur. Mais cette dérive de la gauche identitaire, et donc forcément morale, empêche aussi, selon Marc Lila, de s'intéresser à la pensée réactionnaire, jugée infréquentable, une paresse intellectuelle, un manque de curiosité qui tient au leurre toujours entretenu d'un retour de la grande lutte antifasciste. Car de quoi parle-t-on quand on parle de réaction, d'une idéologie aux mille visages, nous dit Marc Lila, dont on a tendance à ne pas voir qu'elle pose parfois les bonnes question, c'est ce qu'il dit dans son avant-propos, l'avant-propos du livre, en prenant l'exemple du grand remplacement qui soulèverait derrière une expression incendiaire de vrais débats, débats démocratiques sur l'immigration, la natalité, l'intégration sociale, la laïcité. Renaud Camus est alors décrit comme un esthète avec un talent redoutable pour décrire les dégâts de la tempête où nous risquons de faire naufrage. La pensée réactionnaire est donc avant tout une rhétorique, une nostalgie pour un passé fantasmé, au même titre que les révolutionnaires fantasmeraient un avenir radieux. On peut peut-être commencer par là, Joseph Confavreux, l'idée selon laquelle la réaction est une nostalgie révolutionnaire.
Oui, mais ça, c'est le point intéressant de ce livre.
C'est pour ça qu'on commence par là.
C'est de dire qu'effectivement, il n'y a pas que les révolutionnaires qui pensent, les réactionnaires pensent, et c'est intéressant de s'intéresser à leur corpus, et que c'est pas une pensée tiède, la pensée réactionnaire. Mmh. C'est une pensée qui peut être aussi révolutionnaire que la pensée révolutionnaire émancipatrice. Et que lui, en plus, c'est intéressant, il dit qu'au fond, l'espoir révolutionnaire a souvent été déçu, alors que le moteur des réactionnaires, c'est le passé. Donc là, on risque moins d'être déçu que par l'espérance. Donc en fait, c'est finalement un carburant plus intéressant, voire en tout cas plus mobilisateur que celui de l'espoir de lendemain qui chante. Après, il en fait quand même un livre. Bon, déjà, c'est à peine un livre, hein, c'est quelque chose d'assez composite, c'est un recueil d'articles dont on voit mal souvent l'unité, parce que c'est-à-dire que dire simplement que tous les réactionnaires sont nostalgiques ne permet pas d'en faire quelque chose. Et puis pour moi, c'est aussi un livre problématique, parce que bon, bah voilà, vous l'avez dit, quand on commence à dire oui, non, mais ils posent les bonnes questions, mais ils apportent des mauvaises réponses. Moi, je pense qu'il faut plutôt déconstruire les discours. Il le fait des fois, il le fait au contraire d'autres fois. Et puis, il se sert au fond de cet argument d'aller chercher dans la pensée réactionnaire, comme souvent, il s'en sert pour taper sur ses cibles favorites, ce qu'il avait appelé la gauche identitaire, le multiculturalisme, les identités de genre. Et donc, on a un peu l'impression que Marc Lila, qui est de plus en plus, pour le situer, hein, pour les auditeurs de France Culture, c'est une sorte de Laurent Bouvet américain, c'est-à-dire ces gens qui se disent encore de gauche, mais qui ne parlent plus que dans les journaux de droite.
Et il a été au Nouvel Obs la semaine dernière.
Oui, bon. et qui donc en viennent, là on a l'impression qui veut un peu se dire, bon, on n'arrête pas de me traiter de néo-réactionnaire, donc je vais quand même me préserver de ça, mais tout en disant que c'est intéressant. C'est pas très convaincant.
La réaction où les réactionnaires pensent en naufragés, c'est ce que nous dit Marc Lila, et il met dans le même sac les islamistes, les nationalistes européens et la droite religieuse américaine.
Et les antimondialistes et les écologistes.
Oui, je crois que c'est ça qui est intéressant. C'est peut-être moi ce que je retiens intéressant, c'est de décrire le réactionnaire comme une mentalité avant tout. Et le titre du livre en anglais, c'est The Shipwrecked Mind, la mentalité du naufragé. Et ça m'a fait penser d'ailleurs à une phrase de Maurras sur Chateaubriand qui dit « Race de naufrageurs et de faiseurs d'épaves, oiseaux rapaces et solitaires, Chateaubriand n'a jamais cherché dans la mort et dans le passé le transmissible, le fécond, le traditionnel, l'éternel, mais le passé comme passé et la mort comme mort furent ses uniques plaisirs. Loin de rien conserver, il fit au besoin des dégâts afin de se donner de plus sûrs motifs de regret. » Bon, alors Maurras aujourd'hui serait qualifié de réactionnaire, mais en réalité...
À l'époque
lui,
aussi, non
mais à l'époque, justement, ce qu'il critique chez Chateaubriand, c'est son romantisme. Alors lui, maudit le romantisme. Il est très rationaliste. C'est un rationaliste. Et il maudit chez Chateaubriand cette mentalité romantique qui lui fait aimer les ruines et se complaire dans une forme de pessimisme radical. Et cet amour des ruines, doublé d'une nostalgie. Et ça, c'est vrai qu'il y a ça chez les réactionnaires. Il y a cette espèce de dimension romantique que Marc Lilla met en avant. Mais je trouve, moi, ce que je reproche à ce livre, c'est qu'il ne réfléchit pas assez sur la manière dont le mot réactionnaire est devenu un anathème dans le débat public aujourd'hui et qu'il veut dire tout et n'importe quoi. Je veux dire, je parlais de Nouvelle Obs. La semaine dernière, il y avait un dossier dans Nouvelle Obs sur les néo-réacs dans lequel j'étais, dans la liste. Moi, je me sens pas du tout, justement, réactionnaire. En ce sens, je ne veux pas restaurer un ordre ancien. Et donc, ce mot est devenu une façon pour le progressiste, pour les progressistes, de qualifier tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux dans le débat public. Et donc, on fait la liste des réactionnaires. Et donc, je trouve qu'il ne réfléchit pas assez à la manière dont ce mot est devenu un anathème. Et d'ailleurs, peu de gens se revendiquent réactionnaires en tant que tels. C'est intéressant parce que, par exemple, le progressiste ou l'émancipation dont on parlait, des gens revendiquent ce mot. Au contraire, il est très disputé. Et lui-même, d'ailleurs, Marc Lilla dit qu'il est progressiste. Ce qui est intéressant parce qu'il dit qu'il est, soi-disant, il aurait un point de vue neutre, mais en réalité, il a une philosophie de l'histoire qui l'anime puisqu'il pense que on va vers un progrès. Donc, moi, c'est ça qui me manque à ce livre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le réactionnaire est devenu un anathème et est devenu une manière de stigmatiser toute pensée qui s'interroge sur la modernité.
Oui, je faisais cette incise hein, sur Charles Maurras, qui était déjà réactionnaire au moment du début du XXe siècle, pour la première moitié du XXe siècle, puisque la réaction, nous rappelle Marc Lilla, c'est évidemment une notion qui naît pendant la Révolution française, c'est-à-dire ceux qui s'opposent à la Révolution française sont des réactionnaires, et c'est un mot qui a évolué et qui, dès ce moment-là, prend une connotation négative dans le débat français, Joseph Confavreux, jusqu'à aujourd'hui. Ce que je veux dire par là, c'est que ce que décrit Eugénie Bastier du terme réactionnaire comme anathème et comme façon de faire taire, en fait, son interlocuteur, ça ne date pas d'aujourd'hui.
Non, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et à la fois, effectivement, il étudie pas comment le terme, complètement comment le terme aujourd'hui fonctionne aussi, pour moi, des fois, à juste titre, comme un anathème. Ce qui est intéressant, c'est qu'il montre que, il prend trois portraits, hein, il faut bien le dire, de penseurs qui...
Dans la première partie,
Franz Rosenzweig, Erich Voglin et Léo Strauss. Ce qui est intéressant, c'est qu'il montre que chacun d'entre eux a un moment estimé qu'au fond, la course de l'Occident allait complètement à volo, et à chaque fois il montre qu'en fait le point de départ est très différent. Pour Rosenzweig, c'est la réforme du judaïsme, pour Erich Voglin c'est la gnose antique, et pour Léo Strauss ce serait la philosophie de Machiavel. C'est-à-dire que chacun remonte un point de rupture, et de là la décadence et est nostalgique de cet ordre ancien. Donc il lui arrive d'aller assez précisément dans des parcours, mais alors après, la manière même dont il est qualifié de réactionnaire peut être discutée.
Oui. Ah bah justement, voilà, moi je suis pas tout d'accord avec l'idée qu'on mette Léo Strauss dans les réactionnaires. Léo Strauss, rappelons d'ailleurs qui est arrivé aux États-Unis, qui a fui le nazisme en tant que juif, et qui est arrivé aux États-Unis, et qui d'ailleurs dans plusieurs livres a dit son attachement à la démocratie américaine et à la déclaration des droits de l'homme. Je suis pas sûre qu'il ait lavé la nostalgie d'un monde pré-démocratique. Simplement, il a identifié, justement, il a voulu remonter sur les causes d'une modernité devenue folle. Il voyait d'ailleurs dans le nazisme une forme de modernité devenue folle. Il a voulu remonter aux causes et on a l'impression que pour Marc Lilla, vouloir comprendre le point de tournant où ça commençait à aller mal dans la pensée, c'est être un réactionnaire, parce qu'on voudrait revenir avant ce point-là. C'est pas parce qu'il critique Machiavel en disant que, évidemment, à partir de Hobbes et Machiavel, on met le désir au cœur des comportements sociaux et on n'a plus une vision du bien commun, mais on s'appuie sur le désir individuel. Ça ne veut pas dire qu'il veut revenir au temps d'avant Machiavel et au Moyen-Âge. Et je pense que d'ailleurs, Léo Strauss n'a pas du tout une vision réactionnaire des choses. C'est un classique, c'est un ancien. Ses sources sont antiques, c'est Aristote, Platon, Saint Thomas, et puis Saint Thomas d'Aquin, mais aussi Maïmonide, etc. Donc il n'a pas de projet déjà politique réactionnaire, mais il dit qu'est-ce que nous apportaient les anciens que nous avons perdu avec la modernité, c'est ce sens du tragique, l'idée qu'il y a un conflit à l'intérieur de la cité entre différentes visions du bien commun, et cette idée du tragique au cœur de la cité et en effet qui s'opposait à une vision complètement progressiste et universaliste des choses. Mais faire de Léo Strauss un réactionnaire, ça me paraît complètement disproportionné.
Oui, c'est ça qui est peut-être compliqué pour appréhender ce livre, Joseph Joseph Confavreux, ce livre de Marc Lilla, donc L'esprit de réaction, publié chez Des Clés de Brouwer, c'est que il va pas chercher des penseurs organiques et affichés de la réaction, mais avec ces trois penseurs, encore une fois, Franz Rosenzweig, Eric Voegelin et Leo Strauss, il va chercher peut-être des gens chez qui on peut, des penseurs chez qui on peut trouver l'esprit de la réaction, comme il le dit, mais qui ne se revendiquent pas réactionnaires.
Non, c'est ça. Et c'est, du coup, il a une tendance à mettre dans le même sac, hein, parce qu'il parle aussi, il met dans le sac des réactionnaires, la gauche périphérique, les écologistes radicaux, ou les antimondialistes et les activistes de la décroissance, qui sont venus pour lui grossir le camp, les rangs des réactionnaires et les islamistes. C'est-à-dire qu'on est quand même souvent, c'est lui qui détermine purement qui est réactionnaire ou pas. En fait, il écrit plus quelque chose sur l'esprit de nostalgie. Pour lui, c'est au fond tout réactionnaire est un nostalgique et il s'intéresse que tout nostalgique est un réactionnaire. Ça affaiblit assez considérablement son propos, c'est vrai. Après, ça lui permet aussi de parler de textes qui sont moins bien connus. Hein. Il parle notamment du livre Après la vertu d'Alasdair MacIntyre, qui est un marxiste converti au catholicisme, qui a beaucoup influencé la droite américaine. Moi, je pense que les seuls endroits où vraiment le livre est intéressant, c'est justement quand il a quand même un regard qui est transatlantique. Entre la France et les États-Unis, qui permet un peu de montrer voilà ce qui alimente certains courants, ce qu'il appelle le théoconservatisme américain. Donc là, il y a quand même des choses, même si, mais bon, c'est un peu typiquement d'un livre qui a été titré en fonction un peu d'une addition d'articles et qui correspond pas tout à fait à son titre.
Non, mais c'est intéressant sur MacIntyre, donc philosophe écossais qui a beaucoup réfléchi. Donc après la vertu, fait un constat finalement de l'incapacité, enfin de la dislocation de l'éthique dans les sociétés individualistes et libérale, et le fait que finalement on n'a plus de vision de l'éthique cohérente et que tout débat est impossible. D'ailleurs, par exemple, entre un réactionnaire et un progressiste, ils ne peuvent plus débattre ensemble car ils ont des visions et des présupposés divergents. Il part de ce constat et il remonte en effet à l'abandon, toujours pareil, de ce qu'on appelle, ce que Marc Lille appelle la voie délaissée, c'est-à-dire l'idée qu'il y a eu un tournant au moment, à la fin du Moyen-Âge avec Machiavel, Hobbes, etc., et qu'on a abandonné l'anthropologie aristotélotomiste qui se fondait sur la loi naturelle pour une anthropologie libérale qui se fonde sur le désir, etc. C'est quelque chose qui se défend, qui est très étayé par les philosophes qui le défendent, mais je ne vois pas en quoi remonter à ce tournant dans la pensée ce serait pour vouloir une restauration politique. Et c'est là où il fait un lien qui me paraît un peu malhonnête et en réduisant tous les réactionnaires, les conservateurs à la volonté de restaurer un ordre ancien, fantasmé, et lui-même finalement prône une sorte de passivité face à l'histoire. C'est-à-dire qu'il dit finalement il y a une espèce de marche du progrès, on ne revient pas finalement, enfin, vouloir critiquer le point dans le passé, des points des tournants philosophiques dans le passé qui ont abouti au monde d'aujourd'hui, c'est complètement vain et illusoire, et donc il y a sous une apparence de neutralité libéral, bon teint, il y a une vision de l'histoire progressiste et il n'a pas l'honnêteté de le dire.
Oui, parce que ce que nous dit Marc Lilla dans ce qui définit le réactionnaire, c'est cette capacité à se mettre, en tout cas cette volonté à se mettre en travers de l'histoire, en travers de la marge de l'histoire. Et pour aller dans le sens de ce que vient de dire Eugénie Bastier, Joseph Confavreux, il y a un chapitre qui parle notamment de Luther et Descartes, et plutôt de Luther à Walmart, mais Descartes retrouve sa place dans ce chapitre, et nous dit Marc Lilla dans ce chapitre, la réaction s'enclencha donc après ce que vient de décrire Eugénie Bastier sur la question du thomisme, les fondements du thomisme qui sont sapés. La réaction s'enclencha et prépara l'arrivée de Martin Luther et de sa frustre sola scriptura, mais aussi d'un rationalisme scientifique froid de Descartes. L'un et l'autre furent désastreux pour la pensée occidentale.
Oui. Non mais alors en fait Marc Lilla, bon moi je juste pour nuancer ce que dit Eugénie Bastier, je pense que effectivement on peut difficilement définir quand même la réaction ou le conservatisme sans parler de vouloir un monde d'ordre ou en tout cas un monde ordonné tel qu'il était avant. Mais
pas c'est
bah moi il me semble
pas
que
un monde ordonné tout court.
Oui, enfin oui d'accord, mais enfin souvent du coup comme aujourd'hui le monde ne le serait plus, oui, c'est souvent quand même se référer à l'histoire. Mais là, c'est que Marc Lilla en fait, il vient de l'histoire des idées. Et pour lui, c'est les idées qui agissent le monde. Donc, il nous fait des sortes de généalogies, quand même, des fois assez bancales, il faut bien le dire, dont on se dit, ah ouais, tiens, peut-être, mais il va chercher des petits détails. Et moi, je trouve ça fascinant. C'est à un moment, il parle d'un historien qui s'appelle Brad Gregory. Et donc, il dit qu'il partage son opinion de cet historien, que la question de savoir si l'on peut parler de manière significative des attributs de Dieu, ou s'il est celui duquel rien ne peut être dit, peut déterminer votre opinion sur presque tout le reste. C'est-à-dire que, à la fois, évidemment, le réactionnaire veut se mettre en travers de l'histoire, l'histoire. Mais Marc Lilla, il historicise jamais les conditions dans lesquelles les textes sont écrits. Il voit comme ça des continuités depuis la gnose antique, des fois, jusqu'à au supermarché Walmart, qui ne tiennent pas complètement la route.
Oui, moi, encore une fois, ce que je trouve le plus intéressant, c'est l'idée du tempérament réactionnaire qui est en effet le jumeau mimétique du tempérament révolutionnaire. Et d'ailleurs, il y a des phrases, il y a toute une partie du livre qui parle de la gauche et notamment il y a Alain Badiou est cité lui aussi abondamment et il dit voilà
heureusement que les réactionnaires ont Alain Badiou en face d'eux parce que ça leur permet de mettre toute la gauche dans le même sac.
Mais bon, enfin c'est cette espèce de romantisme de la lutte qui existe aussi à la gauche dans la gauche radicale, le frisson du combat, etc. Il dit d'ailleurs ce romantisme de la lutte n'a pas pour patron Paul de Tarse parce qu'il parle du moment paulinien de la gauche, mais Emma Bovary avec cette espèce de bovarisme politique qui consiste à une espèce de romantisme du frisson de la vie qu'on pourrait avoir et qui ne se satisfait pas de la vie qu'on a réelle. Ça c'est assez juste, c'est-à-dire que révolutionnaires et réactionnaires ont effectivement en commun non pas seulement l'idée de faire barrage à l'histoire et de changer finalement la face du monde, mais aussi cette mentalité de la lutte, du frisson et du combat qui est une mentalité romantique en vérité.
Cette idéalisation du futur telle que vous la décrivez, Eugénie Bassier, répond à l'idéalisation du passé des réactionnaires. C'est un peu ce que nous explique Marc Lilla. J'aimerais quand même qu'on en arrive à la dernière partie qui traite des attentats de janvier 2015. Marc Lilla était présent à Paris. Il est parfaitement francophone. On peut d'ailleurs l'entendre. Il était là récemment l'invité d'Alain Finkielkraut sur notre antenne. Il prend cet exemple des attentats de 2015. Il le dit dans la préface. Il a rajouté, puisqu'il était en train de travailler à ce livre, il a rajouté un article qu'il a écrit sur cette question des attentats de 2015 au livre, puisqu'il était en train de vivre l'événement, et il l'analyse comme, là encore, avec l'islamisme radical, le resurgissement d'une parole réactionnaire. Et donc on se retrouve avec des réactionnaires qui sont aussi bien du côté de la religion catholique ou chrétienne plutôt, que du côté de l'islamisme, que d'un côté plus politique, Joseph Confèvre.
Oui, bon, c'est pas la partie, on va dire, la plus intéressante du livre. C'est-à-dire que, voilà, c'est un peu les attentats vus de ma fenêtre dans le 7e arrondissement. Mais après, il a raison de dire salafiste. Salaf, ça veut dire les pieux ancêtres. Donc, le salafiste et sa version djihadiste, c'est une manière de vouloir revenir à l'ordre ancien.
Un passé fantasmé, c'est ça aussi.
Un passé fantasmé, non atteint par la modernité, oui. Un âge d'or complètement fantasmé de l'islam. Voilà, mais il a raison de dire ça. Après, moi, ce qui me semble, c'est que quand même son analyse du livre d'Éric, parce que c'est beaucoup fondé sur une analyse du livre d'Éric Zemmour, le suicide français, puis une analyse du livre de Houellebecq, Soumission, pour lequel il avoue d'ailleurs son admiration, comme si Houellebecq était le penseur du réel, celui qui osait dire les choses qu'on ne dit pas. Donc voilà, moi, c'est vrai que j'ai tendance un peu à me méfier quand on parle là-dessus. Après, il a raison. Le djihadisme, le salafisme sont des réactionnaires.
Oui, mais justement, moi, je pense que le salafisme est peut-être l'exemple chimiquement pur du réactionnaire, parce que justement, ce n'est pas un conservatisme, puisque les salafistes refusent toute la tradition islamique, ils refusent l'islam culturel qui a été sédimenté par des siècles de tradition dans les pays arabo-musulmans, et ils veulent revenir à un âge d'or fantasmé d'avant la tradition. Donc il y a un rejet de la tradition dans cette forme de réaction. Et ça, c'est intéressant, c'est ce qui distingue absolument du conservatisme religieux. Et là, on a un exemple vraiment très parlant. Après, dans ces exemples qu'ils donnent Éric Zemmour et Michel Houellebecq, je suis absolument d'accord pour dire qu'Éric Zemmour est un réactionnaire. D'ailleurs, lui-même revendique le terme et il assume totalement cette vision du monde avec absolument systématique, d'une décadence absolue. Sur Michel Houellebecq, je serais plus partagée parce que ce que dit très bien Marc Lilla, il a raison, c'est que l'objet du livre Soumission n'est pas tant l'islam que la décadence de la société libérale occidentale. C'est un livre avant tout sur l'Occident avant d'être un livre sur l'islam et sur le fantasme de l'islamisation. Mais dire que Michel Houellebecq est réactionnaire, ça me paraît un peu compliqué, sachant que la source principale d'inspiration de Michel Houellebecq, c'est Auguste Comte, qui est un positiviste. Il n'a pas du tout les références et les sources philosophiques de la réaction. À mon avis, c'est un peu plus compliqué que ça, et c'est toujours le problème de cette étiquette réactionnaire qu'on colle un peu à tous ceux qui critique la modernité. Et encore une fois, c'est une case.
Il faut forcément qu'on se revendique réactionnaire pour être réactionnaire. Je suis désolé quand, comme Michel Houellebecq, on passe son temps dans les fêtes de valeurs actuelles ou à s'afficher dans les campagnes européennes aux côtés des pires réactionnaires avec Eric Zemmour. Bah voilà, il y a un moment où on est socialisé parmi les réactionnaires.
Il ne suffit pas de dire
ah bah je suis réactionnaire. C'est vrai qu'il y en a peu qui le disent eux-mêmes. Il faut que ce soit Eric Zemmour, mais il y a des réactionnaires qui préfèrent dire non, on est conservateur. Faut le dire aussi.
Alors pour rajouter un élément de définition, puisque vous nous y invitez, Eugénie Bastier, juste pour terminer, il y a celle-ci, la société, le réactionnaire pense que la société idéale est possible puisqu'elle a existé un jour. C'est ce que nous dit Marc Lilla.
Oui, mais alors, ça c'est assez juste, je pense. Je pense qu'il y a, peut-être cette idée que moi je ne partage pas. Personnellement, moi je me définirais plus comme conservatrice que réactionnaire, même si on me met l'étiquette réactionnaire.
Ouais, mais néo devant, ça va.
Oui, bah voilà, bon ça, ça veut rien dire. Et je pense que, en effet, c'est ce qui distingue le conservateur du réactionnaire, c'est que le conservateur sait que finalement il faut faire le tri entre le mauvais et le bon dans la modernité, et le réactionnaire a vraiment cette idée qu'il a existé une société ordonnée et comment dire stable et bonne par le passé, alors que le conservateur sait que le tragique traverse chaque société et que il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais de société parfaite.
Pour conclure, le néo-stalinien Joseph Confavreux.
Alors
non, mais puisqu'on colle les étiquettes aujourd'hui.
Néo-stal, c'est pas mal.
À partir du moment où moi je veux bien qu'on fasse des distinctions subtiles entre conservatisme et réactionnaire, mais je pense encore une fois qu'on peut pas se contenter de la manière dont les gens s'auto-désignent pour désigner la manière dont ils écrivent, dont ils pensent et dont ils ont des effets.
Voilà, alors peut-être pour se faire une idée et ne pas se contenter de cette auto-désignation, lire Marc Lilla, L'esprit de réaction, c'est aux éditions des Clés de Brouwer.
L'instant critique.
L'instant critique, c'est la dernière séquence de cette émission, séquence où Joseph Confavreux, Eugénie Bastier, vous avez donné un conseil culturel, un conseil de lecture peut-être, Eugénie Bastier, pour nos auditeurs.
Oui, alors moi, c'est un conseil de lecture, c'est un roman, c'est le roman de l'écrivain américain Seth Greenland, qui s'appelle Mécanique de la chute et qui a été traduit à la rentrée aux éditions Liana Levy. C'est un roman qui se passe sous l'Amérique d'Obama et qui décrit un pays obsédé par la question raciale. Ça raconte l'histoire d'un milliardaire juif américain, Jay Gladstone, propriétaire d'une équipe de basketball qui va chuter tout d'un coup dans l'opprobre social. Il va être accusé de racisme. Il est démocrate, il est ouvert, il se croit du côté du progrès, dans le camp des gentils, mais il va se voir remis en question par sa propre progéniture, accusé d'être raciste et sioniste. Alors c'est un roman qui met en scène très habilement et très subtilement les tensions qui peuvent exister entre la communauté juive et la communauté afro-américaine aux États-Unis en ce moment, et notamment dans cette concurrence victimaire et ce conflit des mémoires. Et c'est aussi l'histoire d'un lynchage médiatique à l'époque des réseaux sociaux, comment un homme accusé ne peut plus se défendre et il est noyé par l'immédiateté et par le tribunal numérique. Et voilà, c'est surtout un roman captivant qu'on lit comme on regarde une série, et vraiment je le conseille à nos auditeurs.
Ça fait un peu penser à La Tâche de Philip Roth.
Oui, exactement, et on peut lire un peu, ça fait penser aussi au Bûcher des Vanités de Tom Wolfe. C'est dans cette même veine-là, mais il arrive à renouveler le genre et il y a beaucoup d'humour.
Très bien. Joseph Confavreux, vous, c'est un livre de photographie, je crois.
Oui, alors en fait, c'est un coup de cœur sur une exposition terminée, comme ça il n'y aura pas de discrimination géographique entre les auditeurs, mais qui est aussi un livre publié aux éditions Photosynthèse, qui s'appelle Data Zone, donc qui a été présenté aux rencontres photographiques d'Arles. Dans cet ouvrage qui est assez sidérant, le photographe Philippe Chancel retrace en images un parcours qui documente une quinzaine de sites emblématiques des écueils mortifères de notre monde. On passe par le delta du Niger souillé par le pétrole, la folie des grandeurs d'Astana, qui est la capitale du Kazakhstan, les zones de développement chinois, les zones spéciales, où l'on n'échappe jamais à un brouillard de pollution. On a l'impression que les photos, il y a un filtre, mais en fait non, c'est juste la pollution, ou les territoires sinistrés de Fukushima. L'historien de l'art Michel Poivert, qui accompagne ce livre avec des textes, le décrit comme le miroir cauchemardesque d'un dépliant touristique et une façon de montrer l'effet de seuil à partir desquels les civilisations sont en train de disparaître. Ce qui est intéressant, c'est que le photographe Philippe Chancel a un vrai classicisme de la photo, mais comme un classicisme percuté par les désastres écologiques, économiques et politique. Et bon, c'est pas un livre donné, mais à mon avis, ça montre mieux que l'ouvrage de Pierre-André Taguieff quelles sont les limites à ne pas dépasser si on ne veut pas voir l'humanité s'effondrer.
Merci Joseph Confavreux, merci Eugénie Bastier d'avoir participé à cette émission Avis Critique. Avis Critique, c'est terminé. Attachée d'émission Catherine Denet. À la réalisation aujourd'hui, c'était Vanessa Nadjar et à la prise de son Bernard Laniel. Vous pouvez évidemment réécouter cette émission, la télécharger sur notre site franceculture.fr. Vous pourrez aussi vous abonner au podcast ainsi que sur toute autre plateforme de podcast qui puisse exister, dont évidemment l'application de Radio France. Dans quelques instants, Jukebox.